10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent en direct le samedi 10h, 11h avec l'imam Abdelali. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bien, on a appris cette nuit, imam Abdelali, le décès de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, hein, paix à son âme.
Oui, rahimahullahu ta'ala, que Dieu le couvre de sa miséricorde et qu'il lui accorde, inshallah, un vaste paradis, qu'il fasse de sa tombe un verger du paradis, que nous implorons qu'Allah Azzawajal lui pardonne toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayiatihi. Moi, le seul mot que j'ai à dire, c'est d'abord donc ces invocations et inviter tous nos auditeurs, auditrices qui pourraient avoir entendu certaines choses sur ce personnage qui a été d'abord un chef d'État d'une grande nation qui s'appelle l'Algérie, et de faire preuve de respect, respect envers les morts, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, udkuru mawtakum bi khair. Hein, ne parler que du bien de vos morts, hein, car son âme est entre les mains de Dieu, et c'est seulement maintenant à Dieu qu'il rendra des comptes et non pas à nous. Donc nous n'avons plus besoin de nous mettre dans une situation de bourreau, de juge, de ceux qui condamnent. Respectons sa mémoire, respectons le travail qu'il a fait. Il a fait beaucoup de choses de bien aussi, faut pas oublier. S'il en a fait des choses moins bien, bien qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne ses erreurs. C'est ce que nous, la position respectable et respectueuse vis-à-vis d'un personnage comme Abdelaziz Bouteflika, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala.
Rendez-vous donc le samedi, le week-end, entre 10h et 11h en direct, ce qui veut dire que vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000, c'est le numéro de l'islam au présent, 01 53 48 3000. On va parler de tawakkul aujourd'hui et de la signification de ce terme, imam Abdelali.
Alors, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En effet, nous avons donc entamé une début de rentrée scolaire, rentrée professionnelle, rentrée sociale, où nous lançons dans des projets, dans des initiatives, dans des démarches, ou parfois aussi pour d'autres, tentons de régler certains problèmes. Alors, il y a une forme d'adoration qui est gratuite, qui est facile à faire, et qui est une forme d'invocation. C'est une foi qu'on appelle une piété du cœur, une action qui se fait directement au niveau de son fort intérieur et qui ne coûte rien, qui ne se dévoile pas, qui n'est pas ostentatoire. C'est tout simplement s'en remettre à Dieu.
Ça se voit pas.
Ah ben non, quand tu t'en remets à Dieu, personne ne sait. À part si quelqu'un t'entend dire « Bismillah, tawakkaltu ala Allah », au nom de Dieu, je m'en remets à lui, je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à Dieu, c'est-à-dire je confie à Allah Azza wa Jalla tous mes soucis et notamment la réussite de mes projets.
Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement que de remettre à Dieu?
Le mot tawakkul est un mot dérivé du verbe wakkala. Wakkala, c'est déléguer, mandater, confier. Donc si tu veux transmettre l'affaire ou le dossier à une tierce personne, en général.
Oui.
Comme on dit, quelqu'un, wakili, hasbi Allah wa ni'mal wakil, on dit aussi cette formule.
Je te transfère le dos.
Voilà, tu me mandates, tu me confies, tu me transmets, tu me demandes à moi d'assurer la réussite ou le succès de ce que j'entreprends, ou de mes ambitions, ou de ce que je souhaite réaliser dans ma vie, ou les problèmes dont je souhaite me débarrasser, etc. Donc quand tu t'en remets à Dieu, c'est-à-dire tu transfères de la terre vers le ciel ton dossier, ton affaire, ton problème, ta situation, ce que tu souhaites réussir dans ta vie. Mais aussi, pourquoi pas, on peut parler de tawakkul pour mieux l'adorer. On s'en remet à lui, donc on implore Allah Azza wa Jalla de nous aider pour qu'on puisse l'adorer de la meilleure des façons. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. Et globalement, si tu veux, Philippe, le Coran nous impose, c'est-à-dire Dieu dans le Coran nous lance des injonctions de s'en remettre à lui. Il nous dit pas simplement si vous souhaitez, vous pouvez vous en remettre à lui. Il le considère comme étant un devoir de chaque croyant. Il dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ أو فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ et sur Dieu, les croyants doivent mettre leur confiance, lui confier l'aide et le soutien pour la réussite et le succès de nos projets et de nos actions que nous menons dans cette vie, d'ici-bas.
Mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un de passif, finalement ? Je dis, après tout, je m'en remets à Dieu, donc j'attends, quoi. Et je fais plus rien.
Ouais, voilà, effectivement. Non, il faut, bien entendu, il y a des conditions pour pouvoir réaliser cette forme d'adoration. Il y en a plusieurs. Si tu veux, on peut les évoquer maintenant.
On les verra tout à l'heure. Mais ça veut pas dire être passif subitement. Dire
non,
voilà.
Ouais. Ça s'appelle sinon at-tawakkul. C'est plus at-tawakkul. Tu vois une différence
c'est
entre.
C'est quoi la différence?
Le tawakkul, c'est s'en remettre à Dieu tout en mettant les causes à effet.
Uh-huh.
C'est-à-dire tu agis. Comme disait le prophète à un compagnon qui était entré dans la mosquée, et quand il est sorti, il est revenu à la mosquée, il a dit mais. Et il s'est plaint, il a dit, Ya Rasulallah, oh, envoyé de Dieu, ma chamelle s'en est allée, est partie. Et pourtant, je m'en suis remis à Dieu. C'est-à-dire que j'ai dit, en la posant devant la mosquée, Tawakkaltu ala Allah ya Rabbi, fais en sorte qu'elle reste là et qu'elle ne parte pas. Et là, il lui a dit, mais est-ce que tu as
attaché
ta chamelle? Et il a dit, non, je ne l'ai pas attaché, je m'en suis remis à Dieu. Et là, le prophète lui dit, Aqilha wa tawakkal. Attache-la et ensuite tu t'en remets à Dieu. C'est-à-dire que le prophète impose que pour s'en remettre à Dieu, il faut d'abord mettre les causes. Dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, dans lequel il explique qu'est-ce que c'est que ceux qui sont véritablement des gens qui s'en remettent à Dieu. Il dit, alayhi salatu wassalam, « Lo kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi » Si vous vous en remettez à Dieu, de la meilleure des façons, eh bien vous seriez nourri. Dieu comblera vos besoins comme il comble les besoins d'un oiseau le matin. Un moineau, ça y est Philippe, on dit tête de moineau à quelqu'un qui est bête. Eh bien un moineau c'est quoi ? C'est un animal qui a un tout petit cerveau. Et pourtant, il sort, il ne reste pas dans son nid. Il sort de son nid. Hein ? La ruziqtum kama turzaqu at-tayr takhruju. Elle sort de chez elle. Elle ne reste pas à la maison à attendre que l'argent lui tombe du ciel. Takhruju khimasan. Elle part avec le ventre vide, et elle rentre avec le ventre plein. Mais elle a fait les causes à effet.
Mm-hmm.
Elle est sortie, elle a cherché les vers de terre, tout ce qui pourrait contribuer à sa nutrition. Elle a fait ce qu'il fallait pour se nourrir. Eh bien, de la même manière, le croyant qui s'en remet à Dieu doit lui aussi mettre tout en œuvre sous forme de préparation, de moyens logiques, intelligents, utiliser le bon sens, la raison humaine pour réussir dans la vie. Hein, par exemple, quand on veut réussir un examen, on reste pas sans rien faire, à faire la prière par exemple, à implorer Ya Rabbi, fais en sorte que je réussisse. Non, tu bosses, tu dois réviser, tu dois être assisté à tes cours, apprendre par cœur tes leçons, etc. Tout ce qui t'est demandé et ce qui est nécessaire à la réussite de tes examens, eh bien, tu dois mettre tout en œuvre pour réussir. Et ensuite, si à ce moment-là, tu réussis, ça sera par la grâce de Dieu et par sa miséricorde.
Mmh. Est-ce qu'il y a un sens religieux, finalement ?
Eh bien, oui, bien sûr.
Tu serais différent que le sens de « tiens, je te remets le dossier ».
S'en remettre à Dieu, Philippe, c'est une invocation, c'est un état perpétuel. C'est une invocation perpétuelle. C'est un état, je me mets dans un état où je confie à Dieu tout ce que je fais, mais tout en mettant en œuvre les actions, les causes à effet qui vont me permettre de réussir dans la vie. Et qu'après obtenir la réussite et le succès, je reconnais et je transfère à Dieu les mérites. Les mérites, c'est-à-dire, je dis, c'est
du
grâce
succès.
À Dieu. Comment ?
Du succès.
Voilà, les mérites du succès. Je ne dis pas que c'est grâce à moi. Je n'ai pas l'orgueil, je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi seul qui, donc, aura
les
été
mérites.
Les mérites, la cause de la réussite dans ma vie. Parce que si un croyant fait cela, eh bien, finalement, il aura succombé à une forme de mécréance. Particulièrement détestable, particulièrement on va dire réprimandable par Allah subhanahu wa ta'ala et méprisable par subhanahu wa ta'ala. Et tout simplement parce
qu'on
que
qu'on appelle comment quoi, c'est l'autosuffisance, c'est quoi,
c'est l'autosuffisante, c'est l'autosatisfaction, c'est al-ijabu bin nafs, le fait de d'avoir le sentiment que c'est moi qui réussis. Et ça, Dieu l'a condamné, il l'a condamné dans différentes manières, notamment en nous relatant l'histoire de Qarun. Vous connaissez l'histoire de Qarun, c'était un vizir de Pharaon et à qui et qui avait réussi dans la vie, c'était un grand commerçant, il avait donc réussi plein de choses dans la vie. Et quand on l'a interrogé, mais attends, pourquoi tu donnes pas un petit peu aux pauvres, il faut donner un petit peu aux autres, il faut penser aussi aux nécessiteux, et il a dit non, tout ce que j'ai gagné, je l'ai gagné grâce à mes efforts, grâce à mon intelligence, grâce à mes connaissances. Donc à partir de là, il est important que le croyant n'ait pas cet orgueil, cette autosatisfaction de dire que c'est grâce à lui et lui seul qui est à l'origine de ce succès, de cette réussite, notamment de cette richesse, de ce bien qui a été acquis grâce à ses efforts, grâce à Allah. Ensuite, on dit à ses efforts. À tel point que même le prophète alayhi salat wa salam interdisait aux croyants de dire, par exemple, au prophète de s'adresser, on dit Masha Allah, comme Dieu l'a voulu, comme tu l'as voulu, ya Rasulallah. Wa wa shi'ta ya Rasulallah. Et là, le prophète a dit comment? Masha Allah wa shi'ta. Non, tu ne peux pas dire comme Dieu le veut et comme je veux moi. Il faut bien séparer les deux, comme Dieu l'a voulu seul. Ensuite, comme moi je l'ai voulu. Donc il faut bien distinguer les deux. Il y a la volonté de Dieu qui est d'abord la raison principale de ton succès, et ensuite il y a la cause à effet, c'est-à-dire ce que Allah Azzawajal a bien voulu te donner comme intuition, comme envie, comme enthousiasme, parce que même l'envie de le faire, cette chose, de réussir, de travailler, de faire cet effort, tout cela ne vient que par les mérites d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa grâce. Donc le croyant, il est impératif qu'il s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala quand il entreprend quelque chose.
Mais quand vous dites que c'est un état perpétuel, ça veut dire qu'il faut renouveler cette invocation?
Tout à fait. Le croyant, quand il sort de chez lui par exemple, il sort avec cette formule: Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Au nom de Dieu, je m'en remets à Dieu, et il n'y a de changement ni de force si ce n'est celle qui vient de Dieu. Voilà. Le croyant donc est très soucieux de respecter cette invocation que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné. Et donc, je le répète pour ceux qui ont besoin de le retenir, c'est très simple. Hein. Bismillah, au nom de Dieu. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah khayru s-sama. Bismillah khayru l-asma. Bismillah rabbu l-ardi wa-s-sama. Bismillah alladhi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis sama. Bismillah asbahtu wa ala Allahi tawakkalt. Voilà, ça c'est une des invocations, mais le plus simple c'est de dire Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète dit que celui qui dit cette formule là, il sera sous la protection de Dieu. Fa huwa fi dhimmatillah. Il sera jusqu'à quand il sort de chez lui, hein, jusqu'à qu'il rentre chez lui qu'il est sous la protection de sa demeure, il reste sous la protection de Dieu de manière perpétuelle. Donc il est très important de pratiquer cette formule qui est facile, qui ne coûte rien, qui sont quelques mots dans la bouche, qui sont un instant de spiritualité et de liaison avec ton Créateur, et de te dire, voilà, moi je suis faible, moi je suis rien, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de son aide, donc je m'en remets à lui, je demande son soutien, je demande son aide. « Ufawwidu amri ila Allah, astaïnu billah, astaghithu billah, wa ma tawakkuli wa ma atimadi illa ala Allah. » C'est ce que le croyant réalise quand il sort de chez lui et qu'il veut entreprendre. Par exemple, au début d'un examen, pareil. Au début d'une action, d'un travail, tu commences un effort, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, tu peux être sûr que le succès sera au rendez-vous.
Allez, on parle du tawakkul ce matin avec vous, Imam Abdelali. Je rappelle que vous posez vos questions en direct au standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et l'imam Abdelali Mamoun, et on parle de tawakkul ce matin, imam Abdelali. Alors, vous nous parliez de Karoun tout à l'heure. Qui est-il ?
Alors, Karoun est un personnage qui a vécu à l'époque, c'est un contemporain de Sayyidina Moussa, de Moïse.
De Moïse, oui.
Moïse qui, bien entendu, avait comme principal adversaire le pharaon d'Égypte, hein, qui a tenté de l'anéantir, lui et tout le peuple d'Israël. Mais il y a eu à son époque un personnage qui s'appelait Karoun, qui était un homme immensément riche, Philippe.
Riche,
d'une très très grande richesse. Alors, il est dit, pour te dire, pour illustrer combien il était riche, que rien que pour porter les clés des coffres, enfin les clés qui permettent d'ouvrir les coffres, il fallait plusieurs personnes.
Rien que pour les clés.
Il fallait que plusieurs personnes se réunissent, comme le dit le verset, إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ Qu'il fallait un groupe de personnes pour pouvoir porter rien que les clés des coffres où il avait entreposé toutes ses pièces d'or et tout son or et ses bijoux. C'était un homme immensément riche. Le souci, c'est quoi ? C'est que quand on l'interrogeait, qu'on lui disait « Mais maintenant, il faut donner un peu aux pauvres », il faut faire des sadaqas, il faut penser à la société, il faut pas penser qu'à toi, juste à économiser, emmagasiner, thésauriser comme tu le fais. Il y a Karoun, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Eh bien, il restera bien entendu particulièrement égoïste et ne donnera rien aux autres.
Il voulait pas partager.
Il voulait pas partager.
Ouais.
Et quand on lui dit, mais c'est pas grâce à toi, c'est Dieu qui t'a donné. Il a dit, non, Dieu n'est pour rien. Ce que j'ai aujourd'hui obtenu, c'est grâce à ma connaissance. Innama utituhu ala ilmin indi aw lam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'an wa la yus'alu an dhunubihim al-mujrimun. Donc Dieu l'a considéré comme un criminel parmi les gens qui étaient des criminels, qui laissaient mourir de faim les nécessiteux et s'attribuaient les mérites de ce qu'ils avaient acquis en disant non, c'est grâce à moi, donc je n'ai pas à redistribuer cette richesse à qui que ce soit. Bien entendu, tout cela motivé par des souffleries démoniaques qui lui disaient non, il faut rien donner, sinon tu vas redevenir pauvre comme et tu vas souffrir, etc. Donc à ce moment-là, cet homme, avec toute sa prétention, est sorti dans la rue avec sa embellie, avec des vêtements très très beaux. وخرج على قومه في زينته dans ses beautés. قال الذين لا يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. Et il a même convoité, il a même séduit certains qui, comme aujourd'hui on le voit, quand on voit des stars, des riches qui vivent dans des yachts et dans tout ça. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là, toute cette population, comme on dit, populace, msakin, qui vivent un petit peu dans la difficulté et la contrainte tous les jours? Ils disent, oh, on aimerait bien être comme lui, avoir toute sa richesse et habiter comme il fait, lui, dans des maisons luxueuses, des yachts, etc., etc. Et parce qu'ils ne souhaitent que seulement le bien de ce bas monde. Ils ne pensent pas à la récompense divine dans l'au-delà. Innahu ladhu hadhin azim. C'est un homme d'une très grande chance, diront ces gens-là. Wa qala alladhina utul ilm. Ceux qui ont la science et la connaissance de Dieu diront waylakum. Malheur à vous. Thawabullahi khayrun. La récompense de Dieu est meilleure. Liman amana billahi wa amila salihan. Pour celui qui croit et accomplit des bonnes actions. Wa la yulqaha illa as-sabirun. Et ne peut acquérir ce degré de foi que les patients. Fa khasafna bihi wa bidarihi. Nous avons donc, Dieu a décidé de détruire tout ce qu'il avait et la maison dans laquelle il habitait. Fakhasna, lui, sa maison et toute sa richesse, Dieu a décidé de l'engloutir sous terre et d'anéantir tout ce qu'il avait acquis dans ce bas monde, afin de donner une leçon aux autres qui convoitaient, qui étaient séduits par sa richesse. Hein, regardez, et combien aujourd'hui, hein, Matalan, on va parler de ce président qui avait la force, la puissance, le pouvoir sur tout un pays, sur tout un peuple. Aujourd'hui, il est réduit en cendres et à la poussière. Des stars, on en voit partout, tous les jours, mourir. Jean-Paul Belmondo, d'autres personnages qui, après avoir été des beaux gosses, pleins de succès, de richesses, de, eh bien, finalement, reviennent à l'état de poussière, à l'état de créatures viles et insignifiantes. Donc oui, il faut rester humble.
Ça c'est la chose qu'on sait, c'est que finalement on sait qu'on est et qu'on meurt.
Donc là, ce que l'on va devenir. C'est surtout ça qu'il faut. Oui. C'est cette notion-là qu'il faut garder à l'esprit. Accepter et admettre ce que Dieu a bien voulu t'offrir dans ce bas monde et ne pas convoiter et te laisser séduire par ce que Dieu a accordé à d'autres. Vous regardez toujours ceux qui sont en dessous de soi et non pas ceux qui sont meilleurs que toi. Ceux qui ont, on va dire, acquis plus que toi. En te dire, voilà, moi, alhamdoulilah, Rabbi Atani, moi, Dieu m'a donné au moins la santé, je suis en bonne santé, j'ai toute ma tête, je me plains pas. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir comment les gens qui souffrent matin, midi, soir à cause de maux et de maladies qu'ils ont subies. Donc toujours regarder la situation des gens qui sont en moins
en
bien,
dessous plutôt qu'au-dessus,
en moins bonne situation que la tienne, plutôt que convoiter et dire oh moi j'aimerais bien être comme un tel. Ça fait partie de l'errance, de l'égarement que d'être dans cette démarche là. On peut être ambitieux dans la vie, rien n'empêche d'être ambitieux, mais pas considérer les biens de ce bas monde comme une finalité. C'est un moyen ensuite d'adorer Dieu, c'est un moyen de finalement de plaire encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la richesse que Dieu pourrait t'accorder et le bien que tu pourrais faire avec. Car finalement, qu'est-ce qui t'appartient? Ce que tu as mangé et que tu as digéré, ce que tu as digéré, et les vêtements que tu as portés qui se sont usés sur ton corps. Voilà finalement ce qui est à toi. Le reste, c'est virtuel, c'est dans des comptes bancaires, c'est dans des billets de banque, mais rien finalement n'est à toi que ce que tu consommes et ce que tu portes comme vêtements. Donc voilà ce que nous enseigne le prophète alayhi salatu wassalam, de ne surtout pas succomber à ce genre d'erreurs qui peuvent vous faire tomber dans la mécréance, parce que je répète,
d'accord, mais est-ce
il s'agit
que ça,
bien de mécréance.
Est-ce que ça veut dire, Imam Abdelali, qu'être pauvre c'est mieux que d'être riche?
Non, c'est pas ça. Il s'agit pas d'être mieux d'être pauvre, parce que d'abord on décide pas d'être pauvre ou d'être riche. On fait ce qu'on peut dans sa vie. Si on est riche, tant mieux. Ça, les causes à effet ont permis d'obtenir les biens dans ce bas monde. Et si on est pauvre, au contraire, parce que le succès n'est pas au rendez-vous, Dieu n'en a pas voulu ainsi, hein, et parce qu'il avait prédit dans le ventre de notre mère que voilà la quantité de biens, les richesses de ce que nous acquérirons dans ce bas monde se limiteront à temps et pas plus. Eh bien, on n'en aura pas plus. C'est le maktoub. On n'aura que ce que Dieu nous aura. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Nous n'obtiendrons de ce bas monde que ce qui a été prédit et prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à quoi bon se lamenter? Oui, mais pourquoi j'ai pas réussi? Oui, mais pourquoi j'ai perdu? Pourquoi mon portefeuille je l'ai fait tomber? J'ai perdu tout mon argent. Tant pis, maktoub. Si on avait cette confiance en Dieu, je te promets, on serait moins malheureux. C'est l'objectif de ce tawakkul. C'est quand tu t'en remets à Dieu finalement, de dire bah c'est tout est la volonté de Dieu. Je fais les causes, je mets les causes, j'utilise tous les moyens pour éviter que le malheur m'arrive et qu'au contraire tout le bonheur puisse m'arriver. Mais s'il m'arrive malheureusement des choses qui sont moins bonnes ou que je ne réalise pas autant avec succès mes projets, eh bien, il faut se dire la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de changement et il n'y a de force et d'énergie que celle qui émane de Dieu. Donc c'est ce qui est le trésor du croyant dans ce bas monde. Kenzu min kunuz Allah subhanahu wa ta'ala, un des trésors de Dieu, nous dit le prophète alayhi salam, c'est le fait de formuler cette phrase la hawla wa la quwwata illa billah. Hein, il n'y a de changement et de force que seulement celle qui émane de Dieu. Donc le croyant, on remet les mérites toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa annal fadla bi yadillah, comme le dit le Coran. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. En sourate al-Hadid, la sourate le fer, le métal, ou je ne sais pas comment on dit, al-Hadid, sourate al-Hadid, verset 29, Dieu dit dans le Coran, وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ. Que le bien et les mérites de toutes choses sont entre les mains de Dieu, et يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Il l'accorde à qui il veut. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est véritablement celui qui a la grâce immense, la grâce et les mérites immenses. Donc le croyant doit avoir en l'esprit que tout émane. S'il a cette confiance eh bien, il sera heureux. Il y aura plus de gens malheureux. On n'aura plus de gens angoissés. Combien de gens, Philippe, m'appellent, me dit, ouais, moi, j'ai du waswas, j'ai des angoisses, je me sens pas bien, j'ai peur de mourir, j'ai peur de ceci, j'ai peur. Ouais, je t'as peur de quoi? قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Il ne nous arrivera que ce qui Dieu a décidé pour nous ou contre nous. Il n'y a rien d'autre.
Quand vous dites confier à Dieu le succès des projets qu'on a, Imam Abdelali, et si ça ne fonctionne pas, et si ce sont des échecs?
Tout simplement, il faudra d'abord, après que cela arrive, c'est-à-dire après l'aboutissement du travail que tu as fait, eh bien, cela n'apporte rien, il faudra malgré tout accepter la volonté de Dieu. C'est-à-dire, voilà, tu dis, moi j'ai fait ce qu'il fallait. Dieu n'a pas voulu aboutir. Mais dans sa grande miséricorde, Dieu a dit qu'après chaque difficulté, il y a une facilité.
D'accord, ça ne veut pas dire que Dieu ne vous aime pas.
Non. Dieu ne dit pas qu'il ne vous aime pas, mais il aime vous éprouver.
C'est une question que je vous pose.
Eh bien, je vous réponds, parfois, quand il te prive, c'est parce qu'il t'aime. Il te prive pour que tu continues à lui demander. Parce qu'il sait peut-être, Allah, il sait certainement, que s'il te donne, peut-être tu vas l'oublier. Tu vas dire, non, moi, j'ai plus besoin de Dieu. J'ai plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Donc, Dieu te laisse dans une situation de détresse pour que tu continues à le supplier, à l'implorer, à lui demander l'aide et le soutien, et tu t'en remets à lui constamment. Et quand Dieu, il aime quelqu'un, il fait en sorte qu'il continue. Et ô combien sont rares les gens qui, malgré qu'ils se retrouvent dans l'aisance, dans la facilité, dans la richesse, dans l'opulence, continuent à s'en remettre à Dieu. Et finalement, Philippe, c'est ça qui est difficile. Sayyidina Sulayman, par exemple, le grand prophète à qui Dieu a accordé un royaume et quelque chose qu'il n'a accordé à personne jusqu'à la fin des temps. Il n'a accordé à quiconque dans ce bas monde, dans tous les mondes. Notamment le fait de pouvoir manipuler l'air, les vents, les genoun, le peuple des djinns qui travaillait pour lui incessamment, à qui il donnait des ordres et qui décidait de ce qu'il voulait. Donc il avait un pouvoir immense, Sayyidina Sulayman. C'était un roi des hommes et des djinns. Le roi Salomon, on parle du roi Salomon, le fils de David, le roi David. Dieu avait accordé un pouvoir gigantesque qu'il n'a donné à personne d'autre. Et est-ce que ce pouvoir a engendré chez lui de l'orgueil, de la prétention, je suis le roi du monde, regardez mon pouvoir, etc.? Non, à chaque fois qu'il faisait, il réalisait quelque chose, il s'en remettait à Dieu. Il disait non, c'est grâce à Dieu. Jusqu'au jour justement où est-ce qu'il va demander un ordre, il va demander aux gens qui sont autour de lui de lui apporter le trône de Balkis, la reine de Saba. On en reparlera si tu veux après.
Tout à l'heure, puisque c'est l'islam au présent jusqu'à 11h, vous posez vos questions à l'imam Abdelali Mamoun en composant le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Alors l'imam Abdelali Mamoun qui fait du teasing. Alors on cherchait, il y a un autre mot, il y a un synonyme de teasing qu'on n'arrive pas à trouver.
Peut-être que vous avez ce mot. Tomber de la falaise, un truc comme ça.
Mais en anglais. On ne cherche pas en français. Donc si vous avez ce mot, venez nous aider et partager avec nous vos connaissances au 01 53 48 3000.
Alors, 01 53 48 3000 aussi pour poser vos questions.
Voilà, à l'imam Abdelali. Donc imam Abdelali, vous faisiez du teasing avant la pause.
Je racontais l'histoire de Salomon, le prophète Sulayman alayhi salam, qui à un moment donné, alors qu'il est roi, il a tous les pouvoirs, la richesse, tout ce qu'il veut, il avait même un palais d'une beauté mais sans équivalent dans le monde entier, et il reçoit la visite de la huppe. Tu connais l'oiseau, la huppe?
C'est un bel oiseau avec une belle crête.
Avec une belle crête sur la tête. Ce qu'on appelle en arabe le houdhoud. Qui vient et qui lui dit, voilà, il y a une reine au Yémen, dans la région de Himyar, qu'on appelle la reine de Saba, et qui s'appelle Balkis, et qui, elle et son peuple, se prosternent devant le soleil. Sont des adorateurs du soleil. Et bien entendu, il envoie un messager pour lui dire d'arrêter d'adorer le soleil, et que tu dois venir me voir soumis. Et là, Balkis interroge son peuple. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, elle dira, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Les rois, quand ils rentrent dans une ville, eh bien, ils la détruisent, ils l'anéantissent. وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ. Et ils transforment leurs habitants en personnes, en habitants avilisés.
En esclaves, oui.
En esclaves. Et donc, finalement, elle accepte de se soumettre. Et il lui demande, parce que bon, elle lui offre des cadeaux pour qu'elle essaie de l'amadouer. Mais il dit, attends, tes cadeaux, c'est rien du tout. Ça vaut rien du tout par rapport à moi ce que j'ai. Et il s'énerve. Il exige. Il dit, non, je veux pas tes cadeaux. Je veux que tu viennes soumis à Dieu. Je veux que tu viens te convertir à l'islam et à croire en un Dieu unique et pas au soleil. Et là, finalement, elle accepte et elle est sur le trajet. Et là, Sulayman lui vient une idée. Il dit, mais man ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qui est capable de m'apporter son trône avant qu'ils arrivent jusqu'ici croyants. C'est-à-dire avant que l'armée et le cortège qui accompagne la reine de Saba, qui s'est déplacée du Yémen jusqu'à Jérusalem, hein, là où était installé Sayyidina Sulayman alayhi salam, eh bien viennent convertis. Et là, en effet, il y a un ifrit, un shaitan, un démon qui dira, moi je suis capable de t'apporter son trône avant que tu termines ta séance, avant que tu te lèves de ta place. قبل أن تقوم من مقامك. C'est avant que tu termines ta séance. Donne-moi une heure, une demi-heure, bref, je suis capable de faire ça en peu de temps. Et là, il dit, non, c'est trop lent ça. Il me faut plus rapide que ça. Du Yémen, hein, on parle du Yémen, un trône du Yémen jusqu'en Jérusalem. C'est aller facilement 2000 kilomètres ou plus, hein. Peut-être plus, hein, 2500 à 3000 kilomètres. Et là, un homme à qui Dieu avait accordé la science et le savoir que Dieu est tout puissant, il dit, moi, je suis capable de t'apporter le trône de Balkis en un clignement, plus rapidement que le clignement d'un œil. Tu sais, le clignement des yeux, là, de la paupière des yeux. Et là, à ce moment-là, au moment où est-ce que Salomon voit le trône de Balkis devant lui, qu'est-ce qu'il dira? Normalement, il pourrait dire, ouais, moi, je suis un grand roi, je suis puissant, regardez, à mon service, j'ai des créatures qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Il pourra plus s'en vanter et s'accorder les mérites de toute cette puissance. Eh bien, tout de suite, la première formule dira Sulayman, c'est de dire qala hadha min fadli rabbi. Ceci vient de la grâce de Dieu. Ceci n'est que les bienfaits d'Allah sur moi. C'est liyabluwani, afin qu'il me teste. A akfur, a ashkuru am akfur, afin qu'il teste si est-ce que je suis reconnaissant ou au contraire je suis quelqu'un d'ingrat. Il dira ensuite wa man shakara, et celui qui remercie Dieu ou est reconnaissant envers Dieu, fa innama yashkuru li nafsihi, il n'est finalement reconnaissant qu'envers lui-même. Fa innama yashkuru wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, et celui qui est mécréant et ingrat, hein, sachez que Allah, mon Dieu, mon Seigneur, est le plus riche et le plus généreux. Donc voilà comment a été la réaction de Sayyidina Sulayman, un prophète modèle sur lequel nous devons toujours nous... Et c'est la condition, Philippe, si l'on veut que Dieu accepte de recevoir notre dossier, notre projet, et que quand on s'en remet à lui, il dit « Oui, moi je veux bien m'occuper de ton problème et je vais résoudre ton problème », eh bien il faut que nous, dans l'aisance, nous soyons là aussi...
On ait de la mémoire,
voilà.
C'est ça que ça veut dire.
C'est pas que quand ça va mal, ouais, qu'on dit « Ah Rabbi, oh my God, hein, in God we trust ». Always,
mais
tout le temps.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Oui, in God we trust, c'est ce qu'il y a dans le dollar.
Vous regardez trop
dans le
dollar CNN
américain.
Mais non. Ou Fox News, Imam Abdelalaï.
Tu as vu pourquoi le dollar, c'est la monnaie la plus puissante au monde? Simplement parce que ceux qui ont décidé de l'imprimer, ils ont dit, on va écrire dessus, je m'en remets à Dieu. Je remets ma confiance en Dieu. In God we trust, c'est bien ça? C'est bien ce qui est marqué.
Oui, mais le
dans tous les dollars.
Le trust, c'est pas croire, c'est trust financier.
S'en remettre.
C'est trust financier.
Non, ou in God, mais in God.
In God, c'est bien Dieu. Imam Abdelali, tiens, il y a Alia qui est avec nous. Peut-être qu'Alia va partager avec nous et qu'elle sait comment on dit teasing en anglais autrement que teasing. Alia, bienvenue.
Salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. C'est là,
Alia. Salam alaikum.
Moi, je voudrais vous poser une question parce que avec des amis, on est en contrariété. Moi, je sais que mes parents m'avaient donné une version, mais je voudrais savoir pourquoi un héritage en islam, le garçon, elle a une part et la fille, elle a une demi-part. Maman, elle m'a donné une version. Elle m'a dit que c'est le garçon, parce que les parents sont gardés par le garçon, et la fille étant mariée à un étranger, il n'est pas obligé d'accepter ses parents. On m'a dit pour ça. Alors, je voudrais savoir quelle est la bonne raison.
Bah, tout simplement parce que si on applique l'intégralité des injonctions divines, c'est de donner la moitié des départs aux filles et le double à leurs frères. C'est parce que Dieu a exigé que tous les devoirs matériels, les besoins matériels, étaient de la seule responsabilité des hommes et pas des femmes. C'est-à-dire que quand une femme a de l'argent, c'est de l'argent de poche pour elle, c'est son argent à elle. Alors que l'homme, le père ou le mari, ou parfois même le frère qui finalement se retrouve responsable de sa sœur après la mort de son père, eh bien, à lui seul incombe la responsabilité d'assumer les besoins de sa sœur. Ça veut dire quoi, ma sœur ? Je vais vous expliquer. Ça veut dire que certes, si demain, si quelqu'un, je vous donne un exemple, quelqu'un, une dame, une femme, son père décède. C'est son père qui la prenait en charge, qui assumait ses besoins à elle.
Oui.
D'accord. Eh bien, après la mort de son père, c'est qui va assumer si elle n'est pas mariée ?
C'est le frère.
C'est le frère. Donc le frère, il va prendre le double de la part de sa sœur, mais finalement, pour faire quoi avec ce double ? Pour assumer sa sœur. Pour lui payer le logement, la nourriture, payer les factures, l'intégralité des besoins financiers et matériels incomberont aux frères. Mais qu'aujourd'hui, j'y viens. Mais aujourd'hui, quand on entend quelqu'un, un frère, qui dit moi je veux qu'on applique la loi de Dieu, je veux la double de la part de ma sœur, mais qu'on vient ensuite lui dire attention mon frère, mais ta sœur qui n'est pas mariée parce qu'elle restait s'occuper de ton père et de ta mère quand ils étaient vieux, peut-être pour ça ou pour une autre raison, bref, en tout cas elle n'est pas mariée, il incombe seul à toi de t'occuper d'elle et d'assumer ses besoins, de payer son loyer, de payer ses commissions, les assurances, tout. Bref, ça, ses besoins en santé, la mutuelle, tout. Tu dois assumer ta sœur. Là, il va dire non, moi je peux pas, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, je peux pas m'occuper de ma sœur. Donc, le Coran qui impose à l'homme d'assumer sa sœur, le frère d'assumer sa sœur, là, il veut pas appliquer la loi de Dieu, mais quand il s'agit de toucher le double de la part de sa sœur, en application au verset, la sourate 4, le verset 10 de la sourate Nisa, là, il va dire, ouais, moi, je veux la double, c'est-à-dire, le garçon aura deux fois plus de part que celle des filles. Oui, c'est facile de dire ça. Moi, je lui réponds, je lui dis, écoute, si tu assumes ton devoir fraternel d'entretenir ta sœur, de combler ses besoins, eh bien, on te donnera la double part par rapport à elle. Mais si tu ne veux pas l'assumer, eh bien, on ne te donnera pas plus que ce que le notaire français, lui, te donnera, c'est-à-dire 50-50.
Oui.
Aujourd'hui, le notaire, il va dire non, monsieur, en France, c'est 50-50.
Oui, c'est sûr.
Par contre, si la femme, elle est mariée.
Oui.
Si la femme est mariée, ça veut dire qu'elle a un mari qui, lui, si son père meurt,
oui,
eh bien, il va toucher deux fois plus que la part que ses sœurs.
Oui.
Qui ses sœurs à lui ont des maris qui, eux aussi, vont. Donc finalement, ça revient au même. La femme, dans tous les cas, est prise en charge soit par son mari, soit par son frère, soit par son père. Mais en aucun cas, elle a l'obligation d'assumer elle-même ses besoins. Maintenant, si le frère dit non, moi je veux pas assumer ma sœur, ben à ce moment-là, on n'applique rien. On ne va pas appliquer la loi coranique quand ça t'arrange et quand ça t'arrange pas, on l'applique plus. Donc arrêtons l'hypocrisie de ce discours. On va dire que moi je considère comme étant malsain, de ces hommes qui veulent appliquer Sharia quand ça les arrange et ils veulent pas entendre parler de le Coran, le Karim et de ce que dit le Coran quand il s'agit d'assumer leurs obligations.
Alors quoi faire dans ces conditions?
Vous êtes marié, vous devez accepter la moitié de la part de votre frère, puisque votre mari lui-même touchera le double de la part de sa sœur quand son père décédera, ou si son père a déjà décédé, il a touché déjà le double de la part de sa sœur. Donc dans tous les cas, vous vous y retrouverez avec votre mari, puisque si vous êtes marié, votre mari aura de l'argent, il pourra assumer et combler vos besoins.
Oui.
Et vous, en touchant la moitié, vous ne touchez. Écoutez, madame, en touchant la moitié de.
Je suis pas convaincu, mais enfin.
Madame, vous préférez. Attendez, vous préférez quoi ? 50-50 et vous assumez vous tout seul vos besoins ?
Oui, maintenant.
Attendez, laissez-moi terminer.
Elle travaille comme l'homme.
Non, mais attendez, madame, même si elle travaille, c'est son argent de poche.
Oui, mais quand même, elle assume.
Oui, mais elle n'a pas assumé, c'est ça que je vous explique. Si on applique Sharia, même si une femme travaille, elle n'a pas à assumer les besoins conjugaux. les besoins de la famille. C'est de l'argent de poche pour elle, son salaire.
Toutes celles que je connais, moi, elles gardent leur mère. Les garçons ne veulent pas garder la mère.
Je
les
sais bien, mais madame, vous apprenez, vous parlez pas à un novice qui tombe de la lune, voilà, et qui sait pas ce qui se passe. C'est moi-même qui vous a parlé de cette fille qui est restée célibataire parce qu'elle s'est sacrifiée pour prendre soin de ses parents. C'est souvent le cas. Hein, des femmes qui ne peuvent, ou qui se marient et qui ont un mari indulgent, ou parfois même elles divorcent à cause du fait que leur mari se retrouve en difficulté avec leur mari parce que elles sont toujours aux petits soins chez le père, chez la mère, qui ont besoin d'elle, qui ont besoin de son affection, de sa compagnie, de son aide. Donc c'est vrai que les filles sont plus affectueuses envers leurs parents que les garçons. Mais ceci n'est pas une règle, attention. En principe, c'est aussi aux hommes d'assumer les besoins de leurs parents.
Donc, mais je réponds. Hélas, comme il a dit De Gaulle. Hélas.
Il y a la théorie, il y a la pratique.
Je suis musulmane et ça, je suis obligée de comprendre. Mais comme quand on discute avec les amis et tout, il y a toujours ce problème qui revient. Alors, je leur ai dit, je vais poser la question. Elles écoutent, elles sont en train, toutes elles vous écoutent. Donc voilà.
On en reparlera la semaine prochaine, Alia, si vous voulez bien, des règles d'héritage. Merci en tout cas de votre question.
J'espère avoir donné une partie de la réponse.
Oui, d'accord.
De toute façon, c'est une question qui revient souvent.
Il y a pas de problème.
Mais en tout cas, ce que je vous dis pour résumer, c'est soit on prend tout, soit on prend rien. C'est pas on prend ce qui nous arrange et après on rejette ce qui nous arrange pas. Hein, d'accord, tu prends double part mais tu assumes.
Ouais, mais quand on parle d'argent, il me met de la lie.
Moi je suis pas d'accord.
Le plus grand dieu du monde, c'est l'argent.
Et malheureusement. Hein, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure avec Tarun, avec tout ça.
Faut quand même l'expliquer, hein. C'est que
C'est malheureux, ma sœur. Ouais. En tout cas, moi, Philippe, je voulais vous faire part de, inshallah ta'ala, d'un prochain départ pour la Umrah. La Umrah va débuter. On aura le dossier ficelé avec les tarifs et les départs et tout
ça. Mais en quelle année?
Là, cette année, 2021.
Ça réouvre.
Ouais, ça réouvre. C'est reparti. Les agences commencent à organiser des produits. Et donc, je suis sur le point, Inch'Allah, d'organiser un départ. Donc, il y a un premier départ déjà. Pardon. La fin décembre, ça c'est sûr. Fin décembre, du 21 décembre au 1er janvier 2022. Donc, du 21 décembre 2021 jusqu'au 1er janvier, c'est à peu près 10 jours, 11 jours. Ouais, c'est ça. 11-12 jours. Et ce voyage-là, donc, ça sera un départ pour Médine, pour un retour par Jeddah, donc par Mecca et Jeddah, avec toute la Umrah, avec mon accompagnement, avec tous les guides, le suivi pendant tout le circuit, je serai avec vous, de l'aéroport jusqu'à l'aéroport, aller-retour. Voilà. Vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent venir avec moi, ils peuvent m'appeler et réserver, Inch'Allah, leur place. 06 29 25, je répète. 06 29 25 35 00.
Ah oui, il faut dire en entier le numéro, parce que si vous donnez que les 6 premiers.
Non, mais pour qu'ils commencent à écrire.
Ah oui, d'accord.
Faut leur donner le temps de prendre le stylo.
Mais c'est du teasing.
Voilà. C'est du, donner du temps aux gens. 06 29 25 35 00. Réservez vos places, Inch'Allah. Vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui ont touché le Kaaba ou Mekka al-Mukarrama, eh bien, vous m'appelez. Inch'Allah, on essaie d'organiser ça pour partir ensemble. Marhaba bikoum. 06 29 25 35 00. Ouais, j'ai terminé.
Ah, quand il y en a plus, il y en a encore avec l'imam Abdelali. On vous retrouve samedi prochain. Imam Abdelali, passez un très très bon week-end sur Beur FM.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.